Donc vous avez écrit, Yannick Hanel, un certain nombre de livres. Je pense au Cercle, qui a eu le prix Décembre, et le prix Roger Nimier en 2007-2008, à Jean Garski, qui a eu le prix Interallié, et le Tiens ferme ta couronne, qui a eu le prix Médicis en 2017. Et vous êtes aussi chroniqueur pour la revue Transfuge et pour Charlie Hebdo. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Transfuge, non, mais non, Charlie Hebdo, oui.
D'accord. Et vous êtes aussi cofondateur de la revue qui s'appelle Ligne de risque, oui. Voilà, qui est une très belle revue, un peu confidentielle maintenant, parce que c'est un peu difficile à l'acquérir. Bon, voilà. Vous venez aujourd'hui donc pour un livre magnifique qui s'appelle La Solide Caravage. La Solide Caravage, qui est un livre vraiment magnifique, ardent, on peut dire, sur l'œuvre de Caravage. Et tout le livre est parcouru de thèmes qu'on trouve tout le long de votre œuvre. Je pense à des thèmes comme le feu, la solitude, la quête, la beauté, la violence, le sacré qui courent tout votre œuvre et qu'on retrouve évidemment dans cet ouvrage-là. Mais revenons peut-être à la première étincelle, je vais parler de Judith. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait votre découverte de Caravage ?
Oui, grand merci. Hein, grand merci de cette invitation. Merci d'être là. C'est pas si évident de trouver du temps. Et écoutez, quand j'ai accepté une proposition d'un ami éditeur d'écrire sur le Caravage, j'ai repensé au fait que je n'étais absolument pas légitime pour en parler, parce que je ne suis pas historien d'art, parce que je ne suis pas un spécialiste. Et je me suis dit, autant le faire comme je fais toutes les choses, comme peut-être vous les faites, mais il y a peut-être des spécialistes dans la salle, c'est-à-dire en autodidacte. Moi, je crois qu'à ça, enfin, à ces choses qu'on bricole soi-même, et je tiens le mot bricolage pour quelque chose de noble, comme l'a défini Lévi-Strauss, le bricolage conceptuel, voilà. Et je pense que la légitimité, on se la donne soi-même par le temps, par l'écriture, par la passion. Et je me suis souvenu très simplement que j'avais eu un coup de foudre pour un tableau du Caravage. Et je me suis souvenu que ça remontait à pas mal de temps, puisque j'avais 15 ans à l'époque, j'en ai plus de 50. Et à l'époque, je ne savais même pas, lors de ce coup de foudre, qu'il s'agissait d'un Caravage. Effectivement, il s'agissait de cette Judith. C'est-à-dire que dans un pensionnat dans lequel j'étais un peu séquestré, je le dis de manière, emphatique, enfin, un pensionnat militaire en plus, qui plus est, dans la Sarthe, puisqu'il s'agissait du prytanée militaire de la Flèche. J'avais 15 ans, je souffrais un peu, et peut-être pas tant que ça, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, il y avait les livres, il y avait les chants de Maldoror, je me souviens, qui m'ont stupéfait, qui m'ont coupé en deux, de l'autre amont. Il y avait les illuminations de Rimbaud, il y avait Baudelaire, voilà, comme pour tous les adolescents. Et puis un jour, dans la bibliothèque de section, comme on disait, où après l'étude, puisqu'on était obligé de travailler 2 heures après la journée de lycée, donc de 9 à 10 le soir, avant d'aller se coucher, avant l'extinction des feux, il y avait cette petite bibliothèque où il y avait un livre de vulgarisation, je dirais aujourd'hui, un gros livre de peinture italienne avec des photographies en noir et blanc. Moi, je dois dire que, effectivement, la peinture, malheureusement, en noir et blanc, c'est pas grand-chose, mais j'ai toujours un amour pour ces vieilles vignettes en noir et blanc, vous savez, des vieux livres. Au fond, c'est tellement beau. Parce que je pense que, comme l'a dit, on en parlait tout à l'heure, comme le dit Daniel Arras, enfin, ce grand amoureux de la peinture, on n'y voit rien. On n'y voit rien. On n'y voit jamais rien dans la vie parce qu'on est aveugle, on est passionné. Et finalement, quand la peinture s'éteint un peu, puisqu'on voit toujours la peinture dans des lieux où la lumière est trop forte, finalement, où c'est mal fichu. Il y a parfois des néons. Quand ça baisse, on voit un peu mieux. Et même en noir et blanc, j'ai tendance à penser que finalement, on voit mieux les couleurs. Mais passons. Voilà, toujours est-il qu'un jour, j'ai 15 ans, il est, je ne sais pas, 20h15, j'ouvre cet album et je tombe sur un petit morceau que j'ai tenu à faire figurer en couverture du livre, cette fois-ci en couleur, un détail, comme on dit, et c'est une femme qui fronce les sourcils. Vous me direz, elle fait pas que ça, mais moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ce froncement. Je comprenais pas pourquoi elle fronçait les sourcils, et c'était, je vais le dire un peu bêtement, mais c'est la première fois que je voyais une femme comme ça. C'est ma première femme, voilà, c'est mon premier amour pour une figure peinte, donc pour quelqu'un qui n'existait qu'à peine et qui existe plus finalement parfois que les gens qui existent, qui croient exister. Enfin. Et il y avait ce froncement de sourcils, il y avait évidemment cette bouche avec ce petit grain qu'on voit pas très bien là sur la bouche, et surtout ce froncement de sourcils rimé avec un autre froncement, celui des lacets, qui serre de manière très sensuelle son corsage sous sa gorge, comme dit Baudelaire, enfin, sa gorge majestueuse. Et voilà, ça a été un électrochoc dans ma vie. Je peux dire, je le dis, bon, je sais que la littérature, c'est aussi le lieu de l'excès, donc, bon, je suis un homme pudique, mais bon, maintenant qu'on y est, puis c'est écrit de toute façon, voilà, ça a été le début de ma vie érotique, de voir cette femme. Bon, c'était jamais qu'une figure peinte, donc vous voyez les problèmes. Enfin, ça s'appelle la sublimation. Enfin, quand on se met à espérer tout de quelqu'un qui n'existe pas, quand on se met à transférer l'essentiel de sa vie sur de l'art, voilà. Ça a été le début de ma vocation. Alors, c'est aussi une forme d'absolu, enfin, d'accélération électrisante de ce qui peut être, de ce qu'il peut advenir de la vie quotidienne. Bon, je n'avais que ça. Et ce « ça », comme dirait Freud, bah, c'était elle. Et je ne savais pas que c'était un Caravage. J'étais un peu distrait. Je ne sais pas si c'était écrit en dessous, peu importe. Mais voilà, ça a été le début. Et 15 ans après, pour aller un peu plus vite, et je raconte ça au début du livre pour fonder ma légitimité à vous parler, enfin, et à écrire ce livre sur le Caravage. 15 ans après, j'ai vu le tableau en entier lors d'un voyage. Vous savez, comme on fait tous aux vacances de Pâques. Moi, j'étais prof au collège et au lycée en banlieue parisienne. Et avec ma compagne de l'époque, voilà, à Pâques, on est partis, comme tous les Français, en Italie, donc à Rome. Et nous voilà au Palazzo Barberini. Et je tombe sur cette femme. Franchement, je me souviens très bien. Enfin, j'avais beau être un peu cultivé, entre guillemets, je savais toujours pas que cette femme qui me poursuivait était un Caravage. Et donc, je la vois en vrai, en grand. Et je vois que son froncement de sourcils, qui me plaisait tellement, était activé par un travail, par un labeur, puisque ses bras, dont je me demandais ce qu'il faisait, là, en bas du tableau, qui était coupé, qui était hors champ, ses bras étaient en train de trancher la tête d'un homme. Donc Holoferne, puisqu'il s'agissait de Judith, figure biblique du livre de Judith, tranchant la tête au général assyrien qui venait assiéger la ville de Béthulie et donc assiéger le peuple d'Israël par la même occasion. Et Judith, en fait, était sauvée, Israël, en s'introduisant dans la tente de ce général, dont on voit les circonvolutions de velours bordeaux, avec ce drapé qu'on voit un petit peu sur la couverture. Voilà, donc ça a été ça. Premier choc, érotisation sublime. Et deuxième choc, je me rends compte qu'il s'agit de la mort, enfin. Et que j'étais un ego, au fond, à m'exciter, à m'extasier sur un si beau visage qui était quand même celui d'une femme en train de tuer un homme. Et il se trouve que ce jour-là, enfin, je raconte un peu comme ça, c'est une comédie, comme toujours, les histoires de sexe, au fond, ou d'amour, ou de cœur et d'érotisme. C'est aussi de la comédie, heureusement, enfin. C'est tellement bon d'en rire, en plus. Et ça n'amoindrit rien d'en rire. Il se trouve que la femme qui m'accompagnait ressemblait à Judith. Parce qu'évidemment, ce premier amour a déterminé pour moi quelque chose d'un peu fétichisant. Et les femmes que je rencontrais ressemblaient toutes plus ou moins à cette merveilleuse jeune femme. Donc j'avais de la chance. Et ce jour-là, donc, elle s'est vue en train de trancher la tête de quelqu'un dont elle a tout de suite compris que c'était moi, enfin que j'étais complètement taré au fond. Et parce que je l'avais saoulé, pour le dire vulgairement, pendant des années avec cette Judith. Et je lui avais dit, ah, t'es tellement bien, tu ressembles à cette Judith que j'ai vue quand j'avais 15 ans. Voilà, mais voilà mes débuts dans la vie, mes débuts dans l'amour et mes débuts avec la peinture. Donc je ne sais pas si ça m'a rendu très légitime de parler du Caravage, ça m'a l'air un peu absurde en vous en parlant ce soir, mais voilà, j'ai tenu, avant de basculer dans ce livre, dans l'étude plus sérieuse, enfin, plus folle aussi peut-être de cet immense peintre, j'avais tenu à raconter ce qu'il en est de l'émotion, parce que je pense que la peinture, c'est ça, enfin, c'est comme la littérature, sont des accélérateurs d'intensité. Enfin, pour moi, la peinture... Moi, la culture, en général, ça me fatigue si ça n'est pas quelque chose qui va me foudroyer ou me renvoyer à l'essentiel de la vie. Enfin, si c'est la culture obligée, il n'y a rien de pire, au fond. Et voilà, j'ai toute une histoire avec le Caravage. Et les 50 premières pages de ce livre, quand on m'a commandé ce livre, j'ai écrit ces 50 pages, je les ai envoyées à l'éditeur, qui était un peu... Je disais, ben, c'est pas vraiment ça qu'on attendait. Parce que la collection, c'est une collection biographique, ça s'appelle Des Vies. Et donc, pendant 50 pages, je raconte ce que je viens de vous dire, alors un peu mieux. Tout ça pour me donner l'occasion d'enfin parler du Caravage. Voilà ce qu'on va faire, j'espère.
Il y a eu une troisième rencontre avec Judith en 2007, quand vous découvrez son vrai nom.
Mais il y a que des rencontres. Mais à partir du moment où on aime, comme vous savez, on ne fait que rencontrer. Enfin, la rencontre, ça n'a pas lieu une seule fois. Enfin, la rencontre, ce qui serait idéal, c'est que cette rencontre relève de chaque instant, enfin, qu'elle creuse chaque instant. Alors effectivement, je n'ai cessé de retrouver ce tableau sur mon... Enfin, comment dire ça ? Sur mon chemin, enfin, de le croiser. À tel point que j'ai fini par identifier, en étudiant le Caravage, en achetant des livres, en comparant les reproductions, en allant voir les tableaux, j'ai fini par identifier le modèle. Mais c'est pas ça dont vous voulez que je parle. Je me suis aperçu que cette femme, Judith, enfin, qui joue le rôle de Judith, s'appelait en réalité Philidée Melandroni. C'était une Toscane qui était venue à Rome avec sa famille, qui n'a pas réussi à trouver du travail, comme on dirait aujourd'hui, et qui s'est prostituée. Et elle faisait partie de cette caste des prostituées qu'on appelait des courtisanes, parce qu'elle plaisait à des princes. Mais quand même, elle était tenue par un sale proxénète, avec lequel le Caravage va se battre en 1606, mais là, je m'avance, il va tuer son proxénète, une histoire passionnelle. Et bon, voilà, cette femme m'a passionné, elle fait partie de ma vie, et je suis très touché par le fait que cette femme de la rue, parce que le Caravage est aussi l'un des premiers peintres, bon, Rembrandt le fait aussi de son côté, mais le Caravage fait vraiment partie des premiers peintres qui vont considérer que la grande scène de l'art, où on peut raconter de très grandes histoires, enfin l'histoire sainte par exemple, entre autres, mais des histoires liées à des dieux, des déesses, ne sont pas dévolues aux grands personnages, mais que la rue, enfin que ces histoires appartiennent à la rue, voilà. Et puisque lui-même avait, quand il est arrivé à Rome très jeune, il était là, enfin, donc il fait poser ses amis, que ce soit des garçons, des jeunes femmes qu'il fréquentait dans les tavernes, et il fait poser cette femme pour jouer le rôle de Sainte Catherine d'Alexandrie, pour jouer le rôle de Judith, pour jouer le rôle d'un épisode de la Bible où on voit la conversion de Madeleine avec sa sœur Marthe. Et voilà, il y a aussi un portrait de cette Philidée Melandroni. Mais bon, cette fixation que j'ai eue m'a donné l'occasion de m'intéresser à la peinture tout entière, au fond. Parce que, comme vous le savez, quand on commence à être passionné par la peinture, alors quand on est peintre, c'est encore mieux. Moi, j'ai pas cette chance. Moi, j'ai que des phrases et j'écris à la main. Donc, c'est Voilà, ce sont des petites circonvolutions nerveuses d'encre sur du papier. Mais la peinture, on a l'impression que ça nous, on a la sensation que ça nous donne quelque chose. Il y a une donation, comme on dit en philosophie, qui est celle du visible. Et ce visible, tel que la peinture nous le montre, que ce soit dans le Titien, Rembrandt, ou moi j'aime passionnément Francis Bacon aussi, qui est un peintre tout aussi violent, un peu plus effrayant. On a l'impression que ce, l'impression physique, que ce visible est chargé d'invisible, qu'il est chargé d'un non visible, qu'il est chargé de quelque chose qui nous fait penser passionnément et infiniment. Moi, l'école de la peinture, enfin, le fait de regarder en amateur de la peinture tout le temps, enfin, d'être travaillé par ça, d'aller voir des tableaux, non pas deux minutes avec des gens qui nous poussent derrière, mais d'y revenir, de passer des heures, enfin, de prendre des notes devant, ça a été comme de faire de la philosophie. J'ai fait un peu de philo, mais je suis à peu près comme beaucoup de gens, enfin, je suis un peu frustré par la philosophie. Je sens bien que la philosophie, c'est un secteur de la pensée, mais que la pensée, c'est aussi autre chose. La pensée peut être plus gracieuse. Quand on voit un spectacle de danse, il y a de la pensée. La pensée, parfois, ça ne passe pas par des concepts, ça passe même pas par des mots, au fond. Et la peinture, ça me donne ça de manière absolue. Je pourrais dire, pour terminer, enfin, de répondre à cette question, que la peinture, c'est ce qui me comble. La littérature m'inquiète, la littérature me rend très nerveux, la littérature me stimule, et je sens que j'en aurai jamais fini avec la littérature, et c'est pour ça que j'en fais. La peinture me comble. Je pourrais m'endormir avec aimablement, joyeusement, avec des tableaux en tête. Alors, l'idéal, ce serait d'être enfermé la nuit dans un musée. Et on vient de me proposer de passer la nuit en septembre au centre Georges Pompidou avec la rétrospective Bacon. Parce que je vais écrire un livre sur Francis Bacon. Je vous le dis comme ça en exclusivité mondiale. Et je viens de signer le contrat. Et ça m'a tellement plu d'écrire sur le Caravage que je voudrais continuer à écrire sur la peinture. Et voilà, on m'a proposé ça. J'ai entendu Lydie Salvert parler... Ça marche pas, non ? Ah, ouais. Ah, trop près. Lydie Salvert, qui est une écrivaine merveilleuse, je l'ai entendu parler à France Inter il y a quelques jours, de la nuit qu'elle avait passée au musée Picasso avec des Giacometti, et j'étais tellement content. Il y a deux jours, on m'a appelé en disant « Est-ce que ça vous dirait, en septembre, il y a une rétrospective Bacon, je viens de l'apprendre, de passer une nuit avec des Bacon ?» Alors, Bacon, c'est un peu effrayant, mais bon, de toute façon. Donc j'ai dit oui, comme ça, comme un fou... Voilà.
Ouais. Alors, en parlant du livre, c'est vrai qu'on c'est à la fois, comment le définiriez-vous ? Parce que c'est à la fois une biographie sur Caravage, un essai sur Caravage, une autobiographie à travers Caravage, il y a aussi des fulgurances philosophiques, métaphysiques. Comment vous définiriez-vous votre livre ? Un livre d'amour ?
Ah, bah, ça me va, oui, un livre d'amour, c'est joli, c'est beau. Je ne saurais pas le définir, mais c'est vrai que quand je l'ai écrit, je me disais que c'était une espèce de récit d'apprentissage avec la peinture, jusqu'à un moment où je pouvais me dire que je pouvais parler de la peinture, sans moi, enfin, sans raconter mes salades. Enfin. Et donc c'est comme un récit d'apprentissage qui deviendrait une quête de la peinture elle-même. Parce que le livre, effectivement, prend un pli. Je tiens à cette inflexion à l'intérieur du livre où je continue à parler en mon nom, enfin à la première personne, mais je m'efface, disons, devant les tableaux. Et ça devient, oui, une enquête et une quête. Ce qui m'intéresse passionnément, c'est de trouver les mots, de mobiliser du langage. Et bon, il se trouve que j'ai fondé ma vie là-dessus, enfin, pour mobiliser du langage chaque jour, tout le temps, le plus d'heures possible, de trouver les mots face à des rectangles muets, face à la peinture. Et je trouve, moi je suis un lecteur vorace, hein, je passe plus de temps à lire qu'à écrire, enfin, et bon, j'ai lu à peu près tout ce que je trouvais sur le Caravage, et j'ai empiler des livres en italien, en français et en anglais un petit peu, mais je lis surtout l'italien et le français. Et j'étais quand même un peu frustré par le fait que les historiens d'art, en général, il y en a de géniaux, hein, Michael Fried, Roberto Longhi, qui est le précurseur absolu, et plein d'autres. J'étais quand même un peu frustré par le fait que dans les livres d'art, il y a une convention qui fait que bah, voilà, les livres, on ne peut pas faire des livres de 600 pages, et donc ils ne décrivent pas les tableaux plus d'une page. Et moi, je me suis dit, je suis un écrivain, donc je suis libre, je fais ce que je veux. Et j'ai essayé de d'écrire un livre qui rende compte d'une expérience d'endurance de la peinture, une expérience longue. Il y a 10 ans, j'avais écrit un petit livre qui s'appelle « À mon seul désir » sur les tentures du musée de Cluny consacrées à la Dame à la licorne. C'est-à-dire, ce sont des tapisseries. Je ne connaissais absolument rien à l'art de la tapisserie, mais j'étais un peu tombé amoureux aussi. Vous voyez ma bêtise, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'étais un peu tombé amoureux de ces incarnations féminines. Donc, il y en avait 5 plus 1. Il y avait les 5 sens, plus une 6e mystérieuse. Et c'était comme dans Proust, c'était à chaque fois la même femme et une autre. Et j'avais envie, avec les moyens du bord et avec tout ce que je pouvais lire sur l'art de la tapisserie, sur le Moyen-Âge, sur voilà, tout ça. Je m'étais dit, je vais m'accorder 6 mois et je vais aller tous les jours, j'habite pas très loin, je vais aller tous les jours au musée de Cluny, au quartier latin à Paris, voir cette tapisserie. Parfois, j'écrivais 5 minutes, parfois 3 heures. Et là, pour le Caravage, je me suis dit, il faudrait, ce serait beau, d'être entièrement disponible pour des tableaux qui sont tellement puissants, tellement énigmatiques, qui sont tellement chargés et de sensualité et de pensée, que 3, 4, 5 heures, c'est la moindre des choses. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition à Paris, au musée Jacquemart-André, qui a eu lieu il y a quelques mois. C'était très beau, il y avait 10 tableaux du Caravage qui étaient orchestrés avec ce qui s'est passé à Rome en 1595 à peu près, avec les amis du Caravage et les ennemis, puisque la peinture à l'époque relevait d'un marché assez restreint où le clergé, finalement les prélats romains et le pape proposaient moyennant un peu d'argent, enfin un peu beaucoup parfois, proposer de décorer suite à des propositions de la contre-réforme, proposer de redécorer les églises. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas assez, il y avait très peu de place. Et donc les peintres étaient dans des rivalités à l'infini. Mais il se trouve que ces 10 tableaux, pour les voir, il fallait un peu se battre, enfin, avec dans ce petit musée, avec les gens qui étaient là. Et finalement, moi, j'y suis allé 3-4 fois. Mais on pouvait obtenir devant chaque tableau, et c'est un peu notre condition au XXIe siècle. On peut rester devant un tableau 2 minutes, et 2 minutes, c'est déjà un luxe infini. Il y a des gens qui nous poussent, qui disent qu'est-ce qu'il fout celui-là au suivant. Et voilà. Et comment bâtir un rapport, enfin, comment même fonder, je sais pas comment dire ça, enfin, comment avoir, enfin. C'est comme avec des gens qu'on a envie de rencontrer et puis ils sont là, ils s'en vont, on n'a pas accès à eux. Comment oser avoir un rapport avec la peinture, avec une peinture, quand on reste 1 minute 25 devant, enfin, tout ça, c'est de la foutaise. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a vu quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais, pendant 1 an et demi, je vais faire ça. Je vais regarder, je vais essayer de voir. Je vais me rendre disponible, je vais me rendre vulnérable à ce qui se passe dans ces 65 tableaux du Caravage. Et voilà, je suis à peu près, enfin, je les ai vus à peu près tous. Il y en a un seul qui est à Saint-Pétersbourg, c'était un peu loin, c'était un peu cher, l'avion. Je me suis dit, bon, là, ça va. Je les ai à peu près tous vus. J'étais là. Parfois, j'ai pris un avion le matin. J'allais à Milan. J'étais 4 heures devant un tableau. Je faisais ce que je pouvais. Et puis, je rentrais chez moi. Et puis, après, avec les reproductions, parce que c'est pas si mal, il y a des livres, il suffit d'avoir beaucoup de reproductions. Et quand on en a 4 ou 5, on les met, vous savez, on joue comme les enfants. Enfin, on les juxtapose. C'est des plaques tectoniques. Et il y a un moment où on voit. Effectivement, le vert est un peu émeraude là, il est un peu plus sombre ici. Mais à la fin, on commence à être amis avec ce tableau. On commence à baisser la garde. Et moi, je voulais témoigner de ça. Donc je l'ai fait avec pas mal de tableaux, avec aussi l'idée de revenir sur la vie du Caravage, que je raconte avec passion, et aussi de... Plus je voyais ces tableaux, plus je me déplaçais pour eux, plus je me disais, mais ce peintre, c'est insensé, comme il est... comme c'est un bon peintre, enfin, mais comme il est chargé de pensée, comme il est chargé de grâce. Et je me disais, je m'identifiais aussi un peu, enfin, à ma manière, avec ce mauvais garçon qui cherche dans la nuit à se dépenser, dont la soif est infinie, dont la soif déborde finalement le cadre strictement religieux. Et en même temps, c'est un peintre sacré. Voilà, les plus beaux torses du Christ, je crois que c'est quand même le Caravage, au bout du compte, qui les a fait. Donc je ne comprenais pas. Je me disais, ce type, j'avais une lecture un peu pasolinienne. Je me disais, ce type est quand même, je dis ce type avec tendresse, hein. Ce type, au fond, dans les coordonnées contemporaines, ce serait un athée, au fond, ce serait un révolté athée. Et pourtant, il raconte l'histoire du salut comme personne. Donc je ne comprenais pas. Et bien sûr, l'athéisme ça n'existe pas en 1592, 1593. Et voilà, j'ai dû recomposer pour moi, j'ai essayé de comprendre, au fond, avec dans ma tête Rimbaud, Georges Bataille, et puis j'essayais d'effacer aussi ces références. J'essayais de comprendre comment est-ce qu'on peut, entre 1571 et 1610, c'est-à-dire pendant 39 ans, parce que le Caravage meurt à 39 ans, vous vous rendez compte, comment est-ce qu'on peut vivre une vie qui est entièrement effervescente, qui est tendue par un... Aujourd'hui, on parlerait un peu d'anarchie. Enfin, pour moi, c'est un anarchiste qui est tendu par une volonté de ne pas se laisser asservir, de ne pas répondre à l'autorité et en même temps d'être absolument disponible à quelque chose qui relève de la sainteté, pas la sienne, hein, la sainteté telle qu'elle est racontée dans la légende dorée, et par, par le salut. Et je me suis mis à re-raconter l'histoire du Caravage avec toutes les sources. Enfin, je pense que le livre est assez fiable. Il y a plusieurs historiens de l'art, parce qu'ils savaient que j'étais un peu bizarre. Les éditions Fayard se sont dit, il faut quand même lui mettre deux historiens de l'art sur le dos, parce que sinon il va raconter n'importe quoi, celui-là. Et donc ils ont tout vérifié. Et je dois dire, je suis assez fier. Je pense que c'est un livre, vous pouvez le lire. Il y a à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le Caravage. Mais c'est aussi travaillé par... parce qui, je pense, relève de la passion de l'art, voilà, du débordement, de cette énigme qui fait que l'art est aussi... Pour le dire très franchement, je crois que j'avais tenté de lire les évangiles avant. Ça me passionnait, ça me blessait, parce que je voyais bien mon insuffisance, ça me transportait de joie, ça me rendait fou aussi. Je ne perdais pas de vue que Proust, sur son lit de mort, demandait les évangiles. Je me disais, oui, je crois pas, mais est-ce que je crois? Est-ce que, bon, enfin, les vieilles histoires, quoi. Je voyais bien ma bêtise. Mais en voyant les tableaux du Caravage, en m'astreignant, et je dis m'astreindre, mais c'est pas ça, en allant vers eux pendant un an et demi, j'ai pu lire, enfin, ce qu'il en est de, voilà, et de la révolte, et du néant, et de l'absolu christique. Tout ça ensemble, voilà. Et je veux pas les séparer. Enfin, j'ai pu lire ça comme jamais, au fond. Voilà, c'est un peintre qui donne ça. Je crois que la peinture donne.
Vous parlez souvent de cette métaphore du feu, en fait, oui, qui est très 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 belle. Oui, qui parle du clair obscur. Enfin, vous développez comme ça ce clair obscur entre le néant et l'infini. Enfin, vous devez bien. C'est comme si vous alliez au cœur vraiment du geste pictural, de la pensée de Caravage, qui est étonnant par rapport à tout ce qu'on peut lire en histoire de l'art.
Oh, bah, c'est gentil.
Et là, c'est comme si vous avez trouvé quelque chose. Vous allez la volonté d'aller saisir ce qu'il était.
C'est gentil, mais je oui, bah voilà, bah, c'est la moindre des choses. Enfin, je. Je ne sais pas si vous avez lu les écrits sur l'art de Malraux. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai lu Malraux quand j'étais petit. Enfin, moi, ça me passionnait, Malraux. Puis à un moment, on a 30 ans, on se dit, bon, pff, Malraux, c'est pas si bien. Et en fait, c'est une erreur. Enfin, c'est extraordinaire. Et en Pléiade, il y a deux volumes. Et j'ai découvert ça sur le tard. Il y a un livre sur Goya qui est stupéfiant. Malraux était totalement fou, hein, comme vous savez. Enfin, il faisait tout. Il avait une bibliothèque dans la tête. Et quand même, je me suis dit, arriver à se mettre à un niveau d'intensité, d'incandescence, vous parlez de feu, comme Eliphore, comme Malraux, comme Abby Warburg, enfin ces gens qui sont des hétérodoxes dans l'histoire de l'art, et aussi comme Georges Bataille, moi c'est quelqu'un que j'admire, enfin, et arriver à trouver ça dans sa vie, enfin à se laisser enflammer, à devenir inflammatoire, enfin, je pense que du coup l'art vit plus librement, enfin. Il y a un rapport entre les tableaux et nous, et c'est là que ça se passe. C'est pas moi, enfin. C'est ce qui se passe entre. Et moi, j'ai l'habitude d'essayer de dire les choses. Je pense que l'amour ne va pas sans dire. Je pense que l'art ne va pas sans dire. Et c'est pourtant un paradoxe, parce que la peinture, c'est une chose silencieuse, comme dit Poussin. Et voilà, j'ai voulu... C'est pas que j'y ai mis du feu, enfin, moi je suis pour rien, c'est que j'ai recueilli le feu du Caravage. Il se trouve que j'écris sur une ligne d'intensité depuis longtemps, enfin, une ligne d'intensité que j'essaye de tenir, parce que je pense que c'est le point où la plus belle des solitudes a lieu, et où cette solitude devient une communauté. Je sais pas comment dire ça, mais... Moi, j'ai été professeur pendant 15 ans, enfin, aussi parce que bon, je sais pas, enfin, mes parents n'avaient pas d'argent, donc fallait tout de suite que mes études servent à quelque chose. Et puis, c'était passionnant d'être professeur dans des collèges, comme ça, en banlieue, et de français, enfin, je sais réciter des récitations, et je faisais de la grammaire. Et en même temps, je me réservais pour quelque chose d'autres qui avaient à voir avec la transmission, toujours, mais qui relevaient d'une part combustible, voilà, pour reprendre ce que... Et ce feu, je veillais à ce qu'il ne s'en aille pas. Enfin, ce feu avait été allumé par cette Judith, finalement, enfin, à 15 ans. Et voilà, être un écrivain, pour moi, c'est une chose très simple. Ça consiste à être fidèle en cité... qui ne doit pas mourir. Enfin, je suis comme une vestale, vous savez, comme chez les Romains. Enfin, faut pas que le feu meure. Bon, j'ai ça, voilà, j'ai la chance de pouvoir y consacrer. Alors, je suis plus prof, voilà. J'ai la chance de consacrer mes journées à ça. Il faut pas que le feu s'éteigne. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller vers soit des sujets pour les romans qui m'exaltent, enfin, qui rallument quelque chose. Soit là, c'était une parenthèse, et finalement, c'est pas une parenthèse, soit vers un peintre qui est entièrement du feu. Et parfois, je me dis que le monde est structuré entre un feu noir, vous savez, comme les mystiques juifs disent que la Torah a été écrite feu noir sur feu blanc. C'est à la fois l'encre qui s'imprègne dans le papier, et c'est aussi la parole de la transcendance qui se marque comme ça dans un combat spirituel entre, disons pour le dire bêtement, entre le bien et le mal, enfin, et en tous les cas entre les ténèbres et la lumière. Votre question sur le fameux clair-obscur. Moi, je me disais, tiens, les gens disent Caravage, c'est le peintre du clair-obscur. Je me suis dit, je vais écrire le premier livre où le mot clair-obscur ne figurera pas, parce qu'à la fin, quand même, ce clair-obscur, il y en a marre. Enfin, clair-obscur, ben non, c'est pas clair-obscur, le fond est noir, j'ai pas rêvé, c'est noir. Le clair-obscur, il est où? Donc voilà, j'avais cette idée un peu comme ça, un peu énervée, de dire, mais non, c'est noir, la peinture du Caravage est noire. Ce fond noir... Et j'ai lu des tas de choses là-dessus. Et puis à la fin, il faut arrêter de lire aussi. Il faut juste voir ou ressentir. Ce fond noir est tout simplement lumineux, est éblouissant. C'est depuis ce fond noir qu'il y a une lumière. Je pense que c'est aussi ça qui fait que écrire ce genre de livre en 2019, parce qu'après tout, moi, je ne fais pas un travail généalogique seulement. Je ne suis pas un historien. Écrire ce genre de livre en 2019 a peut-être une forme de cohérence ou de légitimité. C'est que moi, ce fond noir, je le vois partout. Enfin, il y a quand même quelque chose comme un enténèbrement ou un obscurcissement du monde. Enfin, on parle tout le temps des valeurs des lumières. Enfin, ça me fait parfois un peu doucement rire. Enfin, si les lumières régnaient, les lumières, je veux dire, le 18e siècle et ses grandes et belles idées, si ça régnait sur le monde, ça se saurait. Enfin, Je crois que ce qu'a fixé le Caravage à ce moment précis où la Renaissance et ses idéaux humanistes n'était plus de saison, malheureusement. Enfin, ça fonctionnait plus, cet idéal d'un corps harmonieux qui rime avec l'harmonie du cosmos. Voilà, c'était d'une manière très métaphysique. C'est pas pour rien. Alors, techniquement, c'est parce que son atelier était un peu pourri et que bah, il y avait une lumière qui lui convenait, qui était toute moche, qui était souterraine. Enfin, il a, pour le dire, en vérité, il n'avait pas vraiment d'atelier. Il faisait comme il pouvait. Mais il se trouvait, c'est ça le grand génie des peintres, au fond, c'est que depuis la pauvreté de ses moyens, il y avait quelque chose de la pauvreté en esprit, comme dit Maître Eckhart, et comme disent les béatitudes du Christ, enfin, qui rimait avec une manière d'être au monde et qui consonnait avec ce moment où on en était de l'histoire du temps, à savoir que Rome n'était plus la capitale du monde. Rome avait été l'objet d'un sac, comme on dit, le sac de Rome, où les troupes de Charles Quint étaient venues piétiner jusque dans les stanze de Michel-Ange. Rome, c'était plus rien, c'était de la merde, enfin. Et voilà, le monde s'était assombri, et enfin nous était donné une sorte d'égalité où les gens de la rue pouvaient être peints. Un prince, c'était plus grand-chose, au fond. Et voilà, je pense que le Caravage, depuis son excès, avait aussi quelque chose d'une conscience du temps, peut-être même un peu démocratique, je dis ce mot comme ça timidement. Et ce fond noir, c'est pas rien. Enfin, il faudrait quelqu'un de plus intelligent que moi, enfin, quelqu'un, je sais pas, un philosophe, pour... Yves Bonnefoy a fait un très beau livre qui s'appelle Rome 1630, mais il en a fait plein, des beaux livres, où il parle vraiment de ce fond noir. Il parle très peu du Caravage aussi par pudeur, donc il parle plutôt des Caravagès, de Valentin de Bologne et des autres. Valentin de Boulogne. Boulogne. Mais il est travaillé par l'idée que ce fond noir n'est pas qu'un aplat technique. En fait, ça dit quelque chose. Voilà, la peinture pense.
Je notais une phrase que vous dites presque à la fin de votre livre. C'est « Le corps du Baptiste égorgé dans la cour d'une prison me hante au point que j'écris ce livre pour arriver jusqu'à lui ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce cheminement jusqu'à... Voilà, c'est le cheminement aussi de Caravage, aussi, de ces jeunes hommes sensuels, jusqu'à... C'est un chemin spirituel, mystique, aussi, que vous évoquez dans ce livre.
C'est juste l'histoire de... Bah, je suis heureux que vous synthétisiez ce travail comme ça, parce qu'il y a un itinéraire, enfin... De la même manière que le Caravage commence depuis une sensualité arrogante, en peignant des amis à lui et parfois lui-même dans un miroir. Enfin, ces 5-6 premiers tableaux sont des tableaux en buste, enfin où il y a des ragazzi qui nous regardent avec insolence, qui ont l'épaule dénudée, qui sont très sexués et qui relèvent d'une affirmation ironique en disant : vous avez vraiment déjà regardé de la peinture ? Regardez-moi, vous allez voir. Et qui disent aussi vous voulez quelque chose ? Vous voulez quoi au juste ? Vous voulez me connaître ? Enfin, vous voulez qu'on passe la nuit ensemble ? Enfin, c'est vraiment ça le début de la peinture du Caravage. C'est une peinture très très sexuelle. Et le Caravage se place de manière polémique dans la lignée de Michel-Ange, mais contre Michel-Ange. Il s'appelle Michelangelo Merisi, vous savez, on l'appelle le Caravage parce qu'il vient d'un village qui s'appelle Caravaggio, où il n'est pas né d'ailleurs, il est né à Milan, mais c'est juste à côté, en Lombardie. Et voilà, ses débuts, son entrée dans la peinture est fracassante et relève d'une affirmation sensuelle et picturale, où il va dire, voilà, c'est moi, j'arrive. Et de fait, il se trouve que... Très vite, sa peinture est frappée du sceau du sacrificiel. Et moi, de manière comme ça, en amateur, de manière modeste, le trajet que j'ai fait va d'un coup de foudre pour des sourcils, une bouche et une gorge d'une femme, voilà, qui m'a impressionné, et de la fidélité que j'ai envers ce tableau. Ça va de là, qui est comme un tableau où on coupe une tête, bon. Ça va ça va jusqu'au sacrifice de Jean-Baptiste, dont la tête est tranchée au couteau de miséricorde, comme on dit dans ces cas-là, c'est du vocabulaire de bourreau. C'est-à-dire, c'est le couteau, je veux pas être un peu dégueulasse, mais c'est le couteau qui fait qu'on va finir, en fait, une tête. Et il se trouve que c'est un tableau à la Valette que j'ai réservé jusqu'au bout du livre. Enfin, j'aurais aimé ne jamais finir ce livre parce que j'étais tellement... c'est pas que j'étais heureux, c'est plus que ça. Enfin, il y a un moment où la joie est plus forte que tout sentiment et la joie n'est pas... La joie est toujours mêlée de quelque chose de très sombre, au fond. Et voilà, enfin, pendant quelques semaines, pendant quelques jours, la nuit, je me suis mis à réécrire la nuit, parce que peut-être par fidélité au fond sombre, au fond noir. J'étais tenu par ça. Enfin, j'étais dans quelque chose d'entièrement spirituel. Ce que je n'ose pas toujours faire jusqu'au bout dans mes romans, enfin, qui sont des quêtes spirituelles, mais qui sont aussi des romans de chevalerie contemporains, modernes, qui sont pleins d'ironie, d'autodérision, parce que bah, c'est comme ça, je préfère être un peu pudique. Et là, je ne pouvais pas être ironique. Je suivais quelqu'un, voilà, ce n'était pas moi, c'était lui. Et ça m'a mené vers la scène sacrificielle. Et je pense que le Caravage est, et c'est en cela qu'il est là enfin, aujourd'hui, enfin, qu'il nous dit que ces tableaux nous disent à quel point nous autres, nos corps sont en état de sacrifice. Enfin, on se rend pas compte. Enfin, on est, enfin, je dis on, j'en sais rien. Enfin, moi, je me sens l'héritier d'une certaine conception du monde qui est totalement profane, enfin, à savoir que la société telle qu'on la vit, elle a évacué le sacré. La société s'est fondée sociologiquement, voilà, c'est le cas de le dire, sur quelque chose qui relève de la... Le sacré, on le met en dehors. Les morts, on les met en dehors des villes. Enfin. Et il se trouve que les guerres, les exterminations, les génocides, pour le dire plus bêtement, la dureté de la vie, de nos rapports, enfin, nos solitudes contemporaines, comme dit Alain Souchon, un grand poète... font que ben finalement on est en état, on se rend pas compte qu'on vit dans quelque chose qui est aussi une histoire sacrée, c'est-à-dire que nos corps sont en état éventuellement d'être sacrifiés, qu'on soit pauvre ou moins pauvre, enfin on peut à chaque instant être l'objet d'une exclusion, enfin. Et bon, c'est de pire en pire, enfin, c'est ce qui me semble, enfin, j'ai pas rêvé, il me semble que c'est de pire en pire. Et donc, pour moi, la pensée de Marcel Mauss, la pensée de Georges Bataille, la pensée de tous ceux qui ont pensé les sacrifices, enfin, en Afrique, dans les sociétés occidentales, me travaille. Et quand je vois ce que peint le Caravage, enfin, ben, je comprends ça mieux. Enfin, et c'est pas parce que c'est Baptiste, c'est pas parce que c'est le précurseur du Christ, je vois dans cet homme qui est affreusement, scandaleusement, de manière déchirante, moi ça me fait pleurer, enfin, qu'on égorge dans une prison avec deux tarés qui regardent et qui jouissent, bah, qui regardent ça par la fenêtre, et puis des gens qui sont autour, qui disent « Oh, vas-y, fais le mieux enfin, !» Comme toutes les scènes de crime du monde, enfin, comme ce qui s'est passé à Katyn, où les nazis n'en pouvaient plus les soviétiques n'en pouvaient plus d'exécuter les Polonais, comme ce qui s'est passé dans les fosses en ex-URSS, où les nazis flinguaient les juifs, les poussaient, ils étaient exténués. Le Caravage a peint ça, c'est stupéfiant, enfin, c'est bouleversant. On le voit dans ce tableau aller à Malte, enfin. Les gens sont là autour de. Il y a une scène de crime, une scène abjecte, et il y a des êtres humains autour qui sont là en train de dire ouais ça va. Enfin, et ben c'est nous voilà, c'est l'espèce humaine. Donc le sacrifice. Alors vous me direz Rembrandt aussi a peint ça, le Titien aussi a peint ça, Bacon évidemment. Enfin, mais là, je trouve que c'est d'une crudité qui, je sais pas. Enfin, c'est... Ça fait pleurer. Enfin, c'est même plus que soit bien ou mal. C'est que c'est notre miroir absolu. Enfin, et moi, ça m'a fait travailler beaucoup d'aller voir ce tableau et d'aller voir tous les tableaux du Caravage. Ça m'a fait penser. Ça m'a fait me diminuer, vous voyez. Ça m'a fait me dire qu'est-ce que c'est que les humains ? Qui suis-je ?
Surtout qu'on ne l'a pas évoqué, mais il signe, c'est le seul tableau,
oui.
Tableau de Gardage signé.
Ah bah ce tableau, il faudrait des heures pour en parler. Moi, à la fin, j'en pouvais plus aussi. Je vous ai dit, j'aurais aimé continuer à écrire ce livre, mais j'ai réservé les 5 dernières pages à ce tableau, mais là, c'était trop. Effectivement, et c'est l'un des problèmes du Caravage, parce que du coup, on lui a attribué, bon, ça se faisait beaucoup à l'époque, les gens ne signent pas leurs tableaux. Le Caravage n'a pas signé ses tableaux, sauf un. C'est celui dont je vous parle, voilà, le Baptiste qui est égorgé comme un agneau, je le dis à dessein, dans une cour de prison. Il l'a signé comment dire ça ? Vous voyez, il y a le sang qui sort de la gorge du Baptiste et qui fait un début de spirale, enfin de virgule, de petite flaque. Et avec ce faux sang, enfin, c'est de la peinture, enfin, c'est comme Godard quand il dit c'est pas du sang, c'est du rouge. il commence à signer. Ce qu'il y a d'extraordinaire, moi je sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. Faudrait que j'en parle avec des historiens d'art. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Donc il commence à signer Michel-Ange, puisque c'est son prénom, et il s'arrête, comme s'il mourait au moment de signer à la place du Baptiste, c'est-à-dire du précurseur du Christ, c'est-à-dire du Messie, parce que comme vous savez, si on fait se superposer l'histoire du judaïsme, de la mystique juive, et de l'arrivée d'un Messie qui est peut-être le Christ, il y avait Élie dans l'Ancien Testament, mais il y a le Baptiste dans le Nouveau, et donc c'est quelque chose à avoir avec l'histoire du Messie. Et Mérisy, donc le Caravage, signe, s'identifie in fine, enfin, c'est l'un de ses derniers tableaux, c'est pas le dernier, mais de manière, c'est pas présomptueux, c'est un geste d'abandon. Enfin, il signe un tableau et il voudrait faire partie de l'histoire du salut. C'est un homme qui a tué quelqu'un, c'est un homme qui n'a fait que pécher, vous l'avez compris. C'est un homme qui est dans une intranquillité, comme dirait Pessoa, dans une inquiétude qui est tout à fait agnostique, comme on dirait aujourd'hui, qui fait que cet homme n'a plus dormi. Enfin, il est traqué par toutes sortes de polices, celle du pape, celle des chevaliers de l'ordre de Malte. Et voilà, il signe ça comme ça. C'est à la fois comme s'il en mourait, comme s'il voulait faire partie de cette histoire, comme s'il voulait être sauvé.
Mais justement, par rapport à cette thématique de Caravage qui va être sauvé, vous avez remarqué, enfin, on le voit dans le livre, vous l'évoquez, c'est qu'il est souvent représenté dans ses tableaux et de plus en plus près du Christ.
Oui, ça, c'est une petite découverte que j'ai faite. Puisque je suis allé voir les tableaux, et que j'y ai passé du temps, et que ça me plaisait tellement. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très impressionné par la manière dont le Caravage peignait le Christ. Il m'avait même semblé ne l'avoir jamais vu, le Christ, comme je l'ai vu là. Et bon, à force, en allant à Dublin, assister, comme si c'était un spectacle, voir l'arrestation du Christ, et de m'apercevoir que le Caravage s'était réservé un petit rôle dans cette scène. Il y a un petit autoportrait discret, assez loin. Enfin, vous avez le Christ qui est ici, et le Caravage est complètement à l'autre bout, avec une lanterne, comme un peintre qui essaye d'éclairer la scène. À force d'aller voir donc ce tableau, à force d'aller en Sicile, voir dans la résurrection de Lazare, dans un sépulcre, avec une lumière ocre qui est éblouissante, enfin, comme dans Goya, enfin, c'est un précurseur aussi de Goya. Enfin, il n'y a que dans Goya, après, qu'on voit cette lumière d'outre-tombe. Enfin, quelle est la lumière de la mort, enfin, vous voyez. Et d'apercevoir donc dans ce tableau aussi le Caravage qui regarde le Christ. Bon, bref, à force, je me suis dit, mais c'est bizarre. Enfin, la plupart du temps, quand le Christ est peint, il y a le Caravage quelque part. Je suis retourné à Rome voir l'un des premiers tableaux que j'avais vus, que vous avez sans doute vu, qui était à San Luigi dei Francesi, enfin, à Saint-Louis des Français. Donc c'est le cycle, il y a trois tableaux consacrés à Saint Matthieu, il y a le martyr, il y a le moment où il écrit avec un ange qui lui dicte l'évangile, mais il y a ce tableau, on a tous été, enfin, je sais pas, si on va à Rome, on va voir ce tableau, et donc dans un tripot, enfin c'est dans une douane, enfin comme on dit, enfin, je sais pas comment on appelle ça, parce que dans l'évangile c'est pas ça, c'est à l'extérieur. Bon, là le Caravage dit que c'est un intérieur et le Christ entre. Et donc, il y a des types qui sont là, avec, il y a des jeunes gens avec des enfin, vous l'avez vu, avec des plumes, enfin, des chapeaux empanachés, et puis des vieux types qui sont là, et ils sont en train de compter de l'argent. Et ils sont dans le monde du calcul. Et là, il y a le bras du Christ qui vient de la gauche. Ce tableau est dans la pénombre. Et le bras du Christ coupe la pénombre et fait venir la lumière. Et c'est un bras dont le doigt assez mou. Il y a une espèce d'appel amollissant, je ne sais pas, qui est calqué sur, vous savez, ce doigt dans la chapelle Sixtine, enfin, de Michel-Ange, c'est fait exprès. Enfin, il y a une espèce de collage et de reprise ironique de la part du Caravage. Mais là, je m'égare parce que j'allais vous dire, mais le Caravage est là, mais je me suis planté, il est dans le tableau d'en face. Mais bon, passons. Et bon, voilà, enfin, à chaque fois que le Christ est là, je regardais ce tableau, je voyais le Christ qui est stupéfiant de, je peux le dire, de beauté. Enfin. Et donc, il va appeler cet homme qui s'appelle Lévi, qui est pris dans le calcul, enfin, dans le fait de retenir les choses, de retenir l'étang, comme on dit dans la philosophie, qui n'est pas dans l'être, qui est dans l'étang. E accent aigu, T-A-N-T, vous voyez, dans la comptabilité de l'existence. Et le Christ va lui, par son appel, va lui donner la gratuité. Enfin. Et donc, il va devenir Matthieu et il vient avec lui. Et il se trouve qu'en face, juste en face, il y a le martyr de saint Matthieu, où il y a la tête du Caravage. Et en me retournant comme ça, en regardant les deux tableaux, vous voyez, il y en a un qui est là, l'autre qui est là, je me disais, c'est bizarre, il y a le Caravage qui assiste à la scène d'exécution de Matthieu, mais en fait, il regarde le Christ en face. Et il le regarde avec un air que je n'ai pas pu m'empêcher d'interpréter comme une désolation, c'est, bah, voilà, je suis là, j'assiste au crime, je ne suis pas digne d'être avec toi, ce n'est pas vers moi que ton doigt est pointé. Et je me suis dit, tiens, je vais aller revoir tous ces tableaux en regardant le rapport qu'il y a entre le Christ et le Caravage, parce que quand même, je ne sais pas, il y a des livres qui nous disent le Caravage, c'est un voyou, c'est un type, voilà, c'est un punk, quoi. Enfin, sa légende noire fait qu'il envoie tout valser, il peint des gitons hyper sexués en faisant un bras d'honneur à tout. Certes, il y a ça, et moi, je suis très sensible à cette dimension anarchiste, le dire de manière anachronique. Mais très étrangement, il y a aussi une piété insensée, une piété très douloureuse qui vient de sa souffrance à lui. Et je me suis aperçu donc, et c'est ce que vous commenciez à dire, en allant voir dans des églises, pour le coup désertes, à Syracuse, à Messine, devant le tableau, et je montais sur des petits tabourets. Et alors très bêtement, parce que je vous ai dit, je suis un autodidacte, je mesurais la distance entre le Christ et le Caravage, et je me suis aperçu chronologiquement, mais je suis assez content de cette bêtise-là, la bêtise a du bon parfois, enfin je crois, j'espère, je me suis aperçu au fil du temps que la distance s'amenuisait, se réduisait. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ben, le Caravage se rapproche du Christ. Je peux le prouver scientifiquement, c'est ma grande découverte. Non, mais sans blaguer, c'est pas dans les livres des historiens d'art. Enfin, je donne les centimètres. Voilà, c'est quoi penser de ça? J'en sais rien. Peut-être c'est débile. Enfin, mais il y a une aspiration là aussi très douloureuse et une aspiration déçue. Il y a une aspiration très orgueilleuse aussi où le Caravage repousse le Christ. Mais toujours est-il qu'il se peint de plus en plus près. Et dans le dernier tableau où il se peint, donc dans le sépulcre avec Lazare, Lazare est ici, il tend son bras, comme dans la vocation de saint Matthieu, c'est exactement le même tableau, hein, 10 ans après, un peu moins de 10 ans. Et tout le monde regarde Lazare, qui est soulevé par ses deux sœurs. Lazare est en croix, ressuscite très maladivement, enfin voilà, et tout le monde regarde Lazare, et le seul qui a le visage tourné vers le Christ, qui est illuminé, c'est le Caravage. Et donc là, on est à quelques centimètres, enfin j'ai oublié le nombre de centimètres, mais et puis tout ça à la fin, on s'en fout, mais voilà, moi j'ai été bouleversé par ça, c'est comme Pasolini qui est un marxiste catholique. On se dit, ça veut dire quoi, marxiste catholique? Bon, moi, je suis français, je comprends pas. Enfin, Et voilà, être d'extrême gauche et d'aller à la messe, c'est une chose qui... Moi, j'ai épousé une Italienne, vous voyez, et donc son père, c'était ça. Il c'était le Vatican et Moscou. Au début, ça me défrisait, je me disais, mais c'est pas vrai. Et il gueulait contre le Vatican, qui n'était pas assez catholique, et le Moscou, qui n'était pas assez communiste. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris, avec saint François d'Assise, enfin, voilà, qui est aussi, en un sens, c'est la première fois qu'est défié le système économique qui se met en place. Enfin, voilà, être pauvre plutôt que riche, ça va pas de soi. Enfin. Et là, j'ai mieux compris avec le Caravage et avec Pasolini. Ce sont des choses qui relèvent d'un amour, au fond. L'amour intègre le contradictoire. On peut être révolté absolu, vouloir que tout soit sans racine, enfin, qu'il n'y ait pas de racine. On peut vouloir détruire la tradition et être éperdu devant le corps du Christ. Voilà. C'est ça que j'ai vu.
Justement, vous avez évoqué Saint-François d'Assise. C'est une découverte du livre, en fait, c'est que Caravage a beaucoup représenté Saint-François d'Assise.
Absolument. Oui.
Voilà. Vous pouvez nous en parler.
Oui, non, mais je ne savais pas ça. Moi, c'est une passion personnelle que j'ai pour Saint-François d'Assise. J'aime bien les saints parce qu'ils ont toujours beaucoup péché. Et comme vous savez, les saintes aussi. Et bon, ça m'arrange un peu. Enfin, je me dis, tout est possible. Et je, voilà, je trouve que il y a trois ou quatre tableaux du Caravage où il peint Saint-François. Je voyais pas tellement le rapport au début. Je me disais, quel rapport entre ce peintre aussi frénétique, qui est un peintre de l'excès, enfin, un peintre de la soif illimitée, une espèce de peintre bisexuel, semble-t-il, enfin, qui voulait tout. Et puis cet homme qui a tenté de tuer en lui la volonté, enfin, qui a tenté d'effacer en lui les passions, et qui allait vers le moins, vers la pauvreté. Et à un moment, j'ai compris, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, de manière un peu comme ça, comme je pouvais, qu'il n'y a pas de contradiction, que le Caravage était très habité par les béatitudes, enfin, donc le sermon sur la montagne du Christ, qui est le moment où, dans Matthieu, où il s'agit des humbles, des offensés, des pauvres, de ceux qui n'ont pas de place sur terre et qui, d'après ce que dit le Christ, auront une place dans le royaume, au fond. Et le Caravage, je sais, par des livres que j'ai lus, des livres italiens, celui de Roberto Longhi, notamment, mais pas seulement, je sais qu'à Rome, c'était quelqu'un de très instruit, le Caravage. Sa famille, c'était pas du tout des va-du-pieds, enfin... C'était comme Van Gogh, c'est quelqu'un qui lisait, qui pensait, qui a eu un protecteur qui s'appelait le cardinal Del Monte, qui lui a guidé au problème de cosmologie. Enfin, c'était quelqu'un qui était obsédé par... qui était très ami avec Galileo, et qui lui a fait lire la philosophie, qui lui a appris à jouer de la musique. Enfin, je sais pas, on oublie contemporain de Monteverdi. Le Caravage jouait du luth, enfin... Et je m'égare un peu, mais tout ça pour dire, oui, qu'il allait écouter, le Caravage allait écouter à Rome le message, enfin, les homélies d'un prêtre un peu bizarre. Alors, le Saint-François, c'était le XIIe siècle, mais là, il y avait un équivalent, c'était quelqu'un qui s'appelait Néri. J'ai un peu oublié son nom.
Philippe.
Philippe, voilà, Philippe Néri. Je ne sais plus si on dit Philippe de Néri ou Philippe Néri. Et bon, c'était quelqu'un qui était... dont le message relevait d'un dépouillement. Enfin. Et le Caravage, maintenant, on le sait, était très, très, très requis par cette manière de lire les évangiles. Voilà. Et bon, il se trouve que de Néri à Saint-François d'Assise, bon, voilà, la connexion est facile. Alors, chez les peintres, comme vous le savez, il y a aussi le fait qu'ils ne choisissent pas toujours le sujet de leur peinture. Vous voyez, vous pourriez me dire très facilement, ouais, bah, ok, bah, le Caravage, le Saint-François d'Assise, c'est juste qu'il y a des commanditaires qui lui ont demandé des tableaux sur Saint-François. Mais le Caravage, j'ai pu le vérifier, enfin, en travaillant, c'était aussi quelqu'un qui refusait les offres Et c'est quelqu'un qui allait vers ce qui l'intéressait. Enfin, et donc Saint-François d'Assise, c'est pas pour rien qu'il en a peint plusieurs. Il y en a d'ailleurs au moins un qu'il a fait sans aucune demande sociale. Et il y en a au moins un où il s'est peint carrément sous les traits de Saint-François d'Assise. C'était un tableau où il a une drôle de tête, un peu moche comme ça. Enfin, refusant la beauté, enfin la beauté du moins apparente, et qui était à l'expo à Paris, à Jacques Marandré, l'hiver dernier. Voilà, alors Saint-François d'Assise et le Caravage, c'est tout un chapitre, enfin j'y consacre d'ailleurs quelques pages, pas assez sans doute. Il y a quelque chose qui relève pour moi de l'essence même de ce qu'il en est de créer. Je pense que Saint-François d'Assise était un créateur. Il a dirigé une communauté. Il a tenté de préciser ce qu'il en est de la solitude dans le monde occidental. Je crois que c'est une chose dont on va finir par manquer. Enfin, les gens se disent, hein, on va manquer de pétrole. Moi, je m'en fous. Hein. On va surtout manquer de solitude à un moment. Et non, mais c'est vrai, les moments où on est vraiment seul, enfin, c'est quand même pas... Moi, j'aime les autres. Mais enfin, la solitude, ça va devenir une denrée. Il va y avoir des guerres pour la solitude. Et on n'arrive plus, la connexion est devenue tellement illimitée, tellement elle relève d'une forme de violation. À un moment, on n'arrive plus à se concentrer. Moi, j'arrive plus à me concentrer. Je disais tout à l'heure à un ami qui est ici que quand j'avais 20 ans, je pouvais écrire et lire pendant 4-5 heures d'affilée. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Il y a toujours ce fichu téléphone. Je dis, tiens, est-ce que j'ai eu un message? Enfin, voilà. Bon. C'est oui, non, mais je peux pas empêcher de regarder. Je veux savoir, vous voyez. C'est pas le problème, c'est pas d'arrêter, c'est que ça s'arrête pas. En fait, c'est moi qui ne m'arrête plus. Je l'ai fait, mais bon, vous voyez, bah et voilà, mais et voilà, on a plein de solutions. Et la solitude, donc, et je pense que moi, ça me plaît d'aller voir chez Saint-François dans la peinture ce qu'il en est de ce point de solitude, voilà. Ce point de solitude auquel j'aspire, enfin, que j'arrive à créer dans ma vie, enfin, parce que la solitude, c'est pas, comme vous le savez, c'est pas l'isolement, c'est pas le moment où il y a personne, ou c'est même pas une chose désespérée qui relèverait de l'abandon, mais c'est quand on coïncide avec soi-même. On peut trouver de la solitude à deux, ça s'appelle l'amour, en fait, comme vous savez. On peut trouver de la solitude à plusieurs, enfin, on peut se mettre à se rendre disponible à quelque chose qui est plus beau que tout ce qu'on avait espéré, plus beau que ce qu'on peut dire, et qui relève d'une forme, je sais pas, de méditation. Je pense que le Caravage médite avec des pigments, avec des couleurs, avec des tessitures. A fortiori, quand il peint Saint-François d'Assise, et moi, ça a été une très grande surprise, parce que au tout début, il peint François dans le ravissement, au moment où il a les stigmates. Et moi, je suis allé à la Verna, en Toscane, et c'est vraiment un lieu très austère, là où Saint-François a eu les stigmates. Bon, ça rigole vraiment pas, enfin. Il n'y a aucune sensualité. Et le Caravage, il peint le ravissement de Saint-François, il tombe entre les bras d'un ange qui est tout beau, qui est tout frais, et qui est une figure du désir, enfin, qui rattrape, c'est un beau mec, voilà, comme on dit, qui rattrape Saint-François, et on se dit, waouh, ça a l'air bien, les stigmates. Enfin, et bon, il se trouve qu'il y a d'autres tableaux beaucoup plus terreux, plus ocre, où la sensualité est affectée au paysage lui-même, enfin au monde qui prend part au sacré. Mais voilà, je crois que bon, je n'arrive pas à répondre à cette question. C'est une trop bonne question. Saint-François d'Assise, c'est il n'y a pas que le Caravage qui l'a peint, mais c'est très surprenant sous son pinceau, sous sa brosse, sous son chiffon. Et c'est assez ahurissant, parce que c'est lui aussi.
Je veux juste rebondir, parce que justement, oui. Vous avez parlé des points de solitude. Justement, le livre s'appelle « La solitude de Caravage ». Je fais juste deux citations. Il y a tellement de belles citations dans le livre que je vous invite évidemment à dévorer ce livre. Mais il y en a deux. Une de John Duns Scott qui dit « Être une personne, c'est connaître la dernière des solitudes ».
Et après, dans le chapitre que vous appelez « Point de solitude », vous dites « Le point de solitude n'est pas le repli douillet où nous retrouvons loin du conflit, de la violence du monde, mais plutôt un espace déchirant, difficile à supporter, où nous sommes libres, seuls, indemnes, c'est-à-dire non damnés, où l'enfer n'a pas pris sur nous. » Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de l'indemne qui traverse un peu, enfin, que vous citez plusieurs fois dans le livre ? Qu'est-ce que c'est l'indemne ? Est-ce que c'est l'innocence ? Qu'est-ce que c'est pour vous, cette notion-là ?
Oui, qui est assez, ça me travaille, je ne sais pas. Encore une fois, comme je ne suis pas philosophe, je ne traite pas ça de manière conceptuelle. Enfin, dans mon dernier roman, enfin, celui d'avant, « Tiens, ferme ta couronne », c'était aussi le lieu où j'essayais d'arrimer, comme on dit, le narrateur, enfin, qui était en enfer. Et en fait, il y avait un petit point, comme l'œil du cyclone, où quelque chose le préservait. Et c'est un peu comme ça que je me figure les choses souvent. Enfin, c'est comment s'en sortir. Vous voyez, comme dans les romans de Kafka. Enfin, on est dans l'impasse et on cherche la sortie. Enfin. Et alors l'indemne, très sérieusement, au sens étymologique, l'indemne, avec un tiré entre un et demne, c'est le non damné, ce qui n'est pas damné. Alors ça, c'est extraordinaire. Enfin, si quelque chose relève du non damné, si quelque chose se soustrait à ce qui est irrémédiablement réduit à une forme d'asservissement qui est, qu'on le veuille ou non, de manière sympathique ou terrifiante, le nôtre, c'est-à-dire les formes de ténèbres qu'on accepte au fond chaque jour. Enfin, si quelque chose d'indemne, d'encore un peu lumineux existe, alors du coup l'art, la poésie, la respiration, je sais pas comment dire ça, vous disiez l'innocence, voilà, je j'ose pas trop prononcer ce mot, mais l'innocence existe. Il y a ça me vient comme ça, suite à votre question, dans Inferno de Dante, dans l'enfer de Dante, donc dans le premier livre de la comédie, il y a quelque chose qu'il appelle le château de lumière. Et je m'en souviens maintenant, Dante a un problème. C'est que normalement, tous les païens, puisque c'est le système de saint Thomas d'Aquin, donc voilà, c'est un système absolument catholique, donc tous les païens sont damnés, sont en enfer, ils n'ont pas droit au paradis, donc ils sont en enfer. Sauf que Dante se dit mais moi j'ai lu Homère, c'est vachement bien, tous les Grecs, qu'est-ce qu'on en fait, enfin, des poètes grecs, des poètes latins, Virgile. Donc Virgile va être son guide. Et donc il choisit, ça c'est une ruse de Dante, et c'est beau la littérature, parce que ça trouve des solutions à la théologie. Et donc il construit un petit château de lumière, qui est une poche de résistance, où il y a l'enfer autour, et l'enfer chez Dante c'est la glace. Et dans cette poche c'est du feu, poche de lumière comme au paradis. Et il y a par exemple, il y a Ulysse, que Dante admire, il y a toutes sortes de personnages et des écrivains aussi, des poètes. Et voilà, je me figure l'indemne comme étant ce lieu qui n'est sans doute pas localisable, qui n'a pas de coordonnées sur une carte, c'est pas un territoire, enfin. Mais on sait tous dans nos vies où ça a lieu, l'indemne, on le sait en fait, même dans notre corps, on pourrait le dire, il y a des moments comme ça dans la journée où on est en phase avec cet indemne. Parfois ça nous fait parler, parfois ça nous fait nous taire, parfois ça nous fait faire l'amour, enfin, parfois c'est à deux. Je sais pas, c'est à voir avec la voix, avec le silence, avec le cœur. Et alors il se trouve que, en regardant des livres du Caravage, je voyais très bien ce point, que j'ai appelé le point de solitude, qui est un point qui est l'autre du sacrifice, ce serait l'inverse du sacrifice. C'est comme si, je sais pas comment dire ça, c'est comme si Jean-Baptiste ne mourait pas. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se passait sur un autre plan où la mort n'a pas lieu, où la mort n'a pas le dernier mot. Vous savez, c'est Staline qui a dit « à la fin, c'est la mort qui gagne ». C'est vraiment la parole du meurtrier, enfin, du type qui ça le fait jouir même. Ben non, à la fin, c'est pas la mort qui gagne. Il se trouve qu'il y a des tableaux, il se trouve qu'il y a l'amour, enfin, il se trouve qu'on a tous des gens dans nos vies qui sont morts, mais ils sont encore là, puisqu'on pense à eux. À la fin, c'est pas la mort qui gagne. Et voilà, l'indemne, ça a à voir avec ça, avec la résistance qu'on sait tous bricoler, comme on peut, vis-à-vis de ce qui nous brise. Voilà.
Merci.
Je vous en prie.